aduna bobong khalena.
Bonjour amis auditrices et auditeurs, merci de choisir notre compagnie en débutant la journée à l'écoute des CHE émettant d'Ottawa modulation de fréquence 89,1 MHz. Vous pouvez nous écouter également à l'internet à l'adresse www.cho.fr, mais n'oubliez pas sur les câbles à la chaîne 943 disons du câbleau distributeur Rogers. Bienvenue à Ici l'Afrique, édition de samedi 14 juillet 2007 qui vous présente.
Mon nom est Jean-Marie Vianney, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour mesdames et messieurs.
Et Mike Mchaila, nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue chez nous.
Jacques Combeo, j'ai même téléphoné chez ta cousine pour avoir tes nouvelles Combeo. J'ai même téléphoné chez ta cousine pour avoir tes nouvelles Combeo. Combeo, Combeo, voilà Cameroun. J'ai pas compris, c'est l'inanga Jacques Combeo. J'ai même téléphoné chez ta cousine pour avoir tes nouvelles Combeo. J'ai même téléphoné chez ta cousine pour avoir tes nouvelles Combeo.
Quand je pense à toi,
moi aussi je pense à toi.
Moi je pense à toi.
Moi aussi je pense à toi.
Moi je pense à toi.
Moi aussi je pense à toi.
Moi je pense à toi.
Moi aussi je pense à toi. Félicite-moi si tu es vraiment Lomé.
Mais si tu es à Lomé, est-ce que tu peux pas m'envoyer un
téléphone? Félicite-moi si tu es vraiment Lomé.
Moi je pense à toi.
Moi aussi je pense à toi.
Moi je pense à toi.
Moi aussi je pense à toi.
Moi je pense à toi.
Moi aussi je pense à toi.
Dans le studio Jean-Marie, on faisait là les tours du continent africain en compagnie de Pierre Moutoiri. Pierre Moutoiri qui nous jouait Telegram.
Pierre Moutoiri, si vous ne savez pas, qui est originaire du Congo-Brazzaville, hein, de l'autre côté.
Il est originaire du Congo-Brazzaville.
Voilà. Alors, on vous dit que vous écoutez ici l'Afrique. Nous sommes en direct depuis la station de Radio CHU FM. Mike Moutiela, derrière les appareils à la réalisation de l'émission ce matin. Et je vous dis que André Boulumba est là aussi. Et nous manquons notre charmante voix ce matin.
Karine Minga n'est pas avec nous aujourd'hui pour des raisons indépendantes. Dès sa très bonne volonté, amis auditrices et auditeurs, vous aurez à la retrouver lors de notre prochaine édition d'Ici l'Afrique, le rendez-vous hebdomadaire avec l'Afrique.
Voilà, alors toute l'équipe d'Ici l'Afrique profite de l'occasion pour dire un petit coucou à Karine et à tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement à Ottawa.
8h13 dans nos studios. Côté météo, amis auditrices et auditeurs, aujourd'hui, Environnement Canada prévoit un ennuagement graduel avec 60% des probabilités d'averse. Cet après-midi, le mercure, quant à lui, grimpe jusqu'à 22 degrés. À 8h13, il fait 14 degrés à McDonald, quartier l'aéroport international d'Ottawa, idem à l'aéroport provincial de Gatineau, et la pression barométrique est à 100,3 kilopascal.
Voilà, mesdames et messieurs, restez à l'écoute, nous sommes en direct et le numéro de téléphone, Mike, il faut le rappeler, hein, le
613-562-59-67.
Voilà.
613-562-59-67.
Il n'a pas changé, voilà, restez là.
Il n'a pas
là.
Changé.
Donnez-moi une aiguille, donnez-moi une aiguille, avec beaucoup de fil, je vais recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Je vais recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Donnez-moi une aiguille, pardon, une aiguille. Donnez-moi une aiguille avec beaucoup de fil. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Je vais recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Il ne faut pas coudre la bouche qui sent mauvais. Il ne faut pas coudre la bouche édentée. Il ne faut pas coudre la bouche qui fume la pipe. Il ne faut pas coudre la bouche qui dit la vérité. Mais il faut recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Mais il faut recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Donnez-moi du savon, je veux laver ce sang. Laissez par ce passant cet innocent petit enfant. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Donnez-moi une houe, je vais boucher ce trou causé par ce trouble. Et d'où peut tomber l'aveugle? Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Gane non tombe, gane non tombe, gane non tombe, Congo ni londe la yo, Congo ni Congo ne. Nane non dumuya, Congo ni londe la yo, Congo ni Congo ne.
8h17 dans nos studios, Jean-Marie. Oh, on était là en compagnie de Zao.
Voilà, il s'appelle Zoba Casimir, alias Zao. Zoba Casimir, le Congolais, l'homme qui a chanté Ancien Combattant. C'est son dernier opus, en fait, qui est sorti l'année dernière, en 2006, qui s'appelle intitulé L'Aiguille. Et le titre de la chanson que vous écoutez en fond sonore s'appelle en même temps Aiguille, en fait, pour recoudre. Et comme d'après Zao, recoudre le linge
déchiré.
Déchiré.
Et pour nos auditrices et auditeurs, nous tenons à porter, disons, à votre connaissance que Zao est présentement à Paris. Voilà. Il y a toute une série d'artistes africains. Hein. Zao, il y a Mori Kanté, Lokwa Kanza pour un concert spécial, comme on l'a dit, spécial Afrique. Mais la coïncidence est telle que la France célèbre aussi sa fête nationale aujourd'hui.
Voilà, donc il y avait Zao, Lokwa Kanza, comme tu disais, Afa Blondie, La Multitude. On voit André Moulumba qui est en train
De se réchauffer. De toutes les façons.
C'est sûr que ça est en train de bouillir, il y a quelque chose qui se prépare.
Et de toutes les façons, il finira toujours par se joindre à nous. je suis sûr et certain. Avant de recevoir André Moulumba, je vais parcourir rapidement le flash sportif.
Tout à fait.
Puisque je sais que.
Il y a quelque chose qui s'est passé dans la région, la capitale.
Oui. La Coupe du monde de football de moins de 20 ans qui se joue depuis deux semaines aujourd'hui ici au Canada. Entrera demain dans le quart de finale. L'Afrique n'y est représentée que par le Nigeria, vainqueur de la Zambie sous les scores des 2-1 dans une bataille interafricaine qui a opposé les deux pays jeudi dernier ici à Ottawa au stade Frank Clair de Lansdowne Park. C'est sous le même score que la Gambie a été débarquée de la compétition au terme du duel qu'il a opposé à l'Autriche au Commonwealth Stadium d'Edmonton. Et le Mexique bottera finalement dans l'espoir africain en défaisant lourdement le Congo-Brazzaville sous la marque des 3-0 jeudi dernier au stade olympique de Montréal, où la communauté africaine était au rendez-vous pour soutenir le Diable Rouge Junior. Et pour la suite de la compétition, nous souhaitons bonne chance aux Flying Eagles du Nigeria, unique représentant de l'Afrique qui affrontera demain à 14h15 le Chili au stade olympique de Montréal. Et là, nous espérons que la communauté africaine sera une fois encore au rendez-vous pour soutenir le Flying Eagles du Nigeria.
Voilà.
En sport toujours, la deuxième journée de la Coupe d'Afrique de clubs champions qui s'est disputé le week-end dernier a donné les résultats suivants. En groupe A, victoire des Algériens de la jeunesse sportive de Kabylie, qui n'ont pas fait des détails aux Marocains de Forces armées royales de Rabat qu'ils recevaient à Tizouzou en les défaisant sous la marque des 2-0, alors que les Libyens d'Al Ittihad tenaient en échec les Tunisiens de l'Étoile du Sahel qui évoluaient à domicile à Sousse par un nul vierge, 2-0 but partout. En groupe B, les Soudanais, d'Al Hilal n'ont pas fait non plus de détails à leurs visiteurs tunisiens d'Espérance Football Club de Tunis qu'ils ont défait à Khartoum sous la marque des 2-0, alors que les Égyptiens d'Al Ahly allaient défaire à Abidjan les Ivoiriens d'Asec Mimosa sous le score d'un 1-0.
Braza kotala baboti okozoka Dalela te eliana nanga akozoka Sokozala kikokosa nga elie Olongo linga mote maboli kupongo Nakombi nanga momwa koli kamaga Ayolilie Osiliki nanga iti nanini elie Na ebaki toko bongisa Osilika ki pokanda esali mokaya Tope singore warte Eliana nangai Samba papoksa Santona mure
Pokangi monde mape magoko Samolimo Ote kami Pokangi monde mape magoko Samolimo
Bongo na likama motindo yo Alino alino asekanga Di oya bela tango ni mbatevi Aya ya
Ulu baki nanda koke braza kota la baboti okozoka
nalela se eliana nanga akosonga soko sala ki kokosanga eli olongolinga motema bolingo bongo nakomi nanga mumbwa kolinga mama osilike nanga iti na nini eli toswanaki nayebaki tokobongisa osilikaki mokanda ezali mobaya opesi ngorevarte eliana na ngai pamba makosa kato na mure
okangi motema mpe maboko na molimo otengami okangi motema mpe maboko na molimo kuke na yo Oh,
tu es en face de...
Amis auditeurs et auditeurs à l'écoute d'Ici l'Afrique, le rendez-vous hebdomadaire avec l'Afrique, 8h27 dans nos studios.
Voilà, on vous rappelle que nous sommes en direct, accessibles ici.
Et dans quelques instants, nous allons passer aux manchettes de l'actualité africaine avant de poursuivre notre ambiance.
Tout à fait, Mike Mutiala. Et alors, le générique est prêt, on y va.
On y va. Écoute, d'ici l'Afrique, l'Afrique qui parle à l'Afrique et au monde, 8h30 dans nos studios, 13h30 à Cotonou, à Malabo et à Tripoli. Soudan, le Conseil de sécurité des Nations Unies propose une résolution prévoyant l'usage de la force et l'envoi de 26 000 hommes au Darfour. République démocratique du Congo, l'ONU éclaboussait les casques bleus indiens de la MONUC impliqués dans un trafic d'or avec le rebelle rwandais dans le territoire de Masisi. Somalie, Mogadiscio s'est vide de sa population à la veille de l'ouverture de la conférence pour la paix que les islamistes boycottent. De Djibouti, nouveau rebondissement des vagues dans l'affaire Borrell. Amis auditeurs et auditeurs, tels sont les points saillants de l'actualité africaine que nous aurons à vous développer dans moins d'une demi-heure.
Zambian music, Rwanda. Ifwe wa gloria, sibala tuwe wa tamuli lava. Katulo serero, katulo serero. Ifwe wa gloria, sibala tuwe wa tamuli lava. Katulo serero, katulo serero. Tulelila ingomba e, tulelila ingomba chapa, muchalo chesu, chalo chazanga.
Chabulanda sana mkuwa ngefo tuwaishiwa muno mchalo chesu cha Zambia. Tuwarifia ngomba na panshupata lala. Muno muzambia chabafia tuwa chembe kobwino. Nisha afuwa, uwa chembe kobwino. Afuwa, uwa chembe kobwino. Afuwa. Narikote kwa mlandi umoto wale sambira na nkono tuwalia baiche. Lelo mlandu wa masambiri roe na ile kuda kuchalo cha South Africa. Eko wale wombenji toya bu doktor. Elu waishire muno mzambia alitemeno kumfa sana kuli Zambian music. I touching am following bo, I push an awa imba, neko beka la nefya lechita. I push all in what you never disungane, Niku Fiara Mafiara, and you never baba, the cana, the cana. When more metivis, and you know, I'm born in Boba never disungane, if you anti push it. Nanenati, Renati, Niakim Sumukonda. Ava Quisa Ativari Fua. Awa Shirebula na Kambia Kaliseret, I suppose, Samo Tatana, my neighbor Naya. Tatana mayone mona na yashiyere shiyere langu mawaku ya munganga na tila mwikora ule mipasi ya wakaere tatana mayone mona ya chibe sanga ba imbaka lumbu wakali banani Na nena tiri na tiri Patrick Mumba Aba kuisa Atibari Na una tulepe
Ebare ufunga
Wafia Aisa ebula na kambi akalu imbo aisa posa mo Aisa umfua imbote imbote Bushena wovu alu wabambi batira nisu ya bambi atini nyangu Wemu amechube sangawa imba akalu imbo akali banani Natire natini emanu umulemena Aba kuisa Atibarifua Awe aisa bula na kambi akali sereti aisa posa na mo Saraula
Saraula mayo
Awe Saraula
mayo Sarapo
Wamu amechimisa Awa imba Saraula kanshiriba nani Aine nati renati nitedi chilambe Aba kuisa
Atibarifua
Na una tulepema
Ema neuletia
Awe aisa umfwa na kambi ya karuimbo Kaleli lava Zamu ya shamo size 9 ya pakanu Wapamene ya ponigea lounge Wemu amechibe sangaba imba na lorumbo ni banani Natire nati wakala mbawe suwa pongozi Baba kuisa
Atibarifua
Awa aisa vuna na kambi ya kariseleti aisa posa na mo Kwa lolo muela Kwalolo mwela, eko tuwalola mayo
Kwalolo mwela, eko tuwalola
Kwalolo mwela, eko tuwalola mayo
Kwalolo mwela, eko tuwalola
Wemu amechive sanga wa imbaka kalumbo na kolivani Kwalolo mwela Natire nati ni Davis Chupampe Aba kuisa
Atibarifua
Awe aisa vula na kambi ya kaliseleja aisa posa mo Kavere vere Kavere vere vana babu Kavere vere Kavere vere viana viabu Kavere vere
Epunda iriana vienu Kavere vere Ibianto de la sopo, o kaberere Ebunda ibiana geno, o kaberere Ibianto de la sopo, o kaberere
Wemu amechibe sangawa imba kaberere ni banani Natire nati ni Johnny Mulemena Aba kuisa
Atiba
Na una tulepe
Ewa ne uleka
Awe aisa vuna na kambi ya kaliseleti aisa posa mo Bose vala nkavira
Bose vala nkavira maya ye Bose vala nkavira maya ye Awe chishuara we mulongo Mbe kwe chibonga cha kwesi Mbe kitashia nine vode chumba uke Mga fweni kwe chibonga yewe
Wamo mbe chibe sangawa imba na lolo imbo imba nani Nane natire natire pike chishara Aba kuisa
Atibarifua
Na una tulepe
Ewa ne uleta
Kanshi mwewe na Zambia mwewe kuata kwe shuko liyaku ya kumapepo Ifweba glorious band Yule mirongo kutirala Mule tupepela kuo Awana walalirae walalirae Yabaka
8h36 minutes dans nos studios, Jean-Marie, on était là en Zambie.
Nous étions en Zambie, if you're from Zambia, that was a special dedication for you from coming from ici l'Afrique.
C'était là les Serenge Kalindula,
Une occasion de tirer le nez, les verres du nez de de la bouche d'André Moulumba. André Moulumba, bonjour et bienvenue.
Bienvenue Mike et bienvenue Jean-Marie Vianney. C'est bien quand on se retrouve à trois comme ça, on se lance les balles. Hein.
Là, on était en Zambie, là.
Bon, en fait, moi...
C'est toi qui nous amène le vent de l'Afrique
australe. Je venais de là, je pense, oui. les sereines de Kainoula, en fait, ils sont en progression. Et puis, il y a oui. aussi beaucoup de bons artistes. Mike, je pense qu'il connaît la région. Ce ne sont pas les artistes qu'il avait laissés, qui sont là pour le moment.
Oui.
Il y a les Danny Kaya, il y a les Chameleon, ils sont très nombreux. Il y a beaucoup d'autres musiciens qui sont là, en fait, la musique a complètement changé.
Mm-hmm. Mais Moulumba est quand même à blâmer. Moulumba est quand même à blâmer. Nous, on croyait qu'il allait au moins nous apporter l'album de l'un des groupes que j'ai beaucoup aimé, le Binding Youth.
Oui, nous avons, je pense, nous en avons en cassette.
Ah oui, je pense que j'ai écouté les Binding Youth en arrivant.
Quand on venait ici, on écoutait ça.
Ah, c'est là où il y a la chanson préférée, la Chaouta, est là aussi.
Non, ça c'est leur nouveau album. En fait, ça a changé beaucoup.
Il y a eu beaucoup de changements dans les Binding Youth.
Et puis, il faut aussi dire à Marc que la radio a beaucoup changé. Nous avons la cassette, mais on a maintenant un équipement moderne. Alors, ça pose des problèmes pour ramener une cassette comme ça que vous mettez pour jouer, peut-être.
Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire au niveau de la même radio, puisque la technologie a tellement évolué. Voilà. Il y a lieu de transférer la musique de cassette audio vers un CD. Et ça se fait maintenant dans notre studio de production.
Voilà, mais ça prend beaucoup de travail. Mais oui, il faut dire que.
Ça prend beaucoup de travail, ça c'est vrai.
J'ai trouvé aussi Piquet Chichalet, je ne sais pas si tu aimes ça. Musique. On essaie dans la région.
Et l'autre musique que tu nous as fait, il y a une musique traditionnelle.
Ça, c'est les Emayeng. Qui connaît. Le groupe est très très bon pour le moment, mais il faut dire que Chris Chale, il était mort.
C'est d'ailleurs ce que le Selenge Kalindula Band nous disait dans leur chanson.
Oui, mais les Angela Nirenda, par exemple, ils sont maintenant au top de la musique. Et il faut dire qu'Angela a eu vraiment un entraînement avec Chalamoine quand j'étais là. Et Charmoine était arrivé sur place sur l'invitation spéciale de Sakal Bradas, qui est le groupe avec lequel il joue. Oui, oui. Alors, on disait que Charmoine était venu l'entraîner pour jouer la musique.
Puisque en Zambie, pour ce qui est de la musique, lorsque ça vient de Charmoine, c'est à prendre au sérieux.
Oui mais il faut dire aussi...
Essayez de vous retrouver dans l'une des rues de Lusaka et dire à quelqu'un, par exemple, que Madonna est plus artiste que Charmoine. Vous risquez de vous retrouver avec des blessures là-bas.
Mais Mike, il faut dire aussi que pour le moment, la musique congolaise comme telle, parlant de Charmoine, cette musique est en baisse au niveau de la Zambie. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme Uncle Jah, comme Danny Masikonse, comme je l'ai dit.
C'est pas seulement au Congo. C'est pas seulement au niveau de la Zambie.
Au Cameroun aussi, par exemple. Oui.
Tu sais, dans la réalité de toutes choses sur cette terre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en physique la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur s'exerce sur toute réalité humaine. Lorsqu'on monte, à un certain moment, on ne saura plus monter pour dire qu'on a atteint l'apogée. Mm-hmm. Et lorsqu'on atteint l'apogée, il faut faire beaucoup d'efforts pour rester, sinon c'est le déclin toujours.
Oui, c'est le déclin, cette musique même au niveau de la Côte d'Ivoire, ça chute déjà, mon gars.
La musique même du Congo, dans la plupart de cas, si vous écoutez les artistes congolais chanter, à un certain moment, on se demande...
Mais ils sont encore très bons au Zimbabwe, ils sont appréciés au Botswana.
Oui. Non.
Alors...
Ils sont appréciés, ça c'est vrai, mais le contenu de la musique même. Prenez par exemple.
C'est pas une musique engagée alors.
Même au-delà d'engager, le contenu même, ça peut ne pas être engagé, mais lorsqu'on écoute une chanson et qu'on en tire au moins une leçon, pour dire en écoutant cette chanson, il y a au moins un message.
Mais il parle trop de l'amour quand même.
Il parle trop de l'amour.
Tout le monde aime.
Effectivement, l'amour c'est une bonne chose. tout le monde aime bien
et tout
ça.
Le monde aime différemment.
Mais il faut adapter la musique aux réalités africaines.
Mais les autres vous diront toujours love is not what life is all about. Mm-hmm. C'est-à-dire au-delà de l'amour, il faut apporter
autre chose.
Autre chose.
Alors c'est pourquoi pour le moment, alors il y a beaucoup d'Africains qui se tournent vers les musiciens tels que Jah Fakoly. Mm-hmm. Fakoly que tu as vu. Qui donnait un grand concert à Montréal.
Il y a Tiken Jah Fakoly, il y a... On peut dire aujourd'hui que la musique ivoirienne par rapport à la musique congolaise, c'est que c'est une musique qui monte.
Oui, ça monte beaucoup. Oui. C'est ce qui fait que même au niveau de la Côte d'Ivoire, cette musique congolaise est en baisse aussi. Au Cameroun, je pense bien parce que...
Mais tout à fait, oui. Parce que quand on voit le schéma de la musique camerounaise, j'ai pas eu le temps de le regarder de manière...
Ils sont des bons artistes pour le moment.
Il y a des bons artistes, mais il y a cette connotation ivoiro-congolaise qui revient de temps en temps. Donc, pour dire que c'est vrai que la musique congolaise est un peu
en baisse, mais il y a cette musique qu'on transpose ailleurs.
Transpose ailleurs avec
mais c'est quand même étonnant. Je suivais l'une des interviews de Papa Wemba. Papa Wemba, on lui a posé la même question pour dire que la musique congolaise était finalement en baisse par rapport à la musique ivoirienne. Il a dit que lui-même était très surpris d'entendre les Lingalas, c'est-à-dire les jeunes musiciens ivoiriens chanter en Lingala.
Mais c'est ce qu'on dit qu'ils ont. C'est justement comme Jean-Marie dit, elle baisse quelque part, en Zambie par exemple. Mais quelque part, on emprunte certains mots, certains rythmes.
Certains rythmes pour l'associer au rythme du terroir, en fait. Et je pense que moi je vois ça une musique qui est en pleine évolution, une musique qui évolue avec le continent, en fait, ou un continent qui voit que quelque chose est bon de l'autre côté. Et on essaie de l'adapter à la réalité locale.
Elle est en baisse. En fait. Elle est en baisse, c'est lorsqu'on l'analyse avec une oreille totalement critique. Jusqu'à la preuve du contraire, elle sert toujours des références.
Voilà.
C'est vrai, oui. Voilà. Et puis quand tu vas dire comme ça à un Congolais nostalgique là, que ta musique est en baisse quelque part, nous sommes en studio, mon gars, alors.
On est un peu protégés.
Nous sommes protégés par le micro.
Voilà. Non, mais en fait, c'est pas une baisse qui veut dire une baisse pour voulant dire la mort, mais c'est une baisse qui veut dire un transfert de musique, un transfert de connaissances, un mélange en fait qui donne une sensation différente parce que le coupé décalé, toute cette mouvance de musique ivoirienne
à
cette racine où on voit beaucoup la connotation congolaise dans cette musique.
Mike qui ne peut pas mourir quand quelque part là.
Je ne sais pas. Je ne sais pas où Mike va nous amener.
Ça va, on sera en Guinée alors, puisque Moulumba l'a dit. Et on va faire appel à Maurice Kanté qui va nous jouer Sabou. Il faut dire aussi que Maurice Kanté est à Paris aussi.
Il est à Paris aussi.
Et puis j'écoutais encore. Il y avait un nouveau CD là qui était. C'est Maurice Kanté ou
Ismaël. Oui.
Il a fait sortir un nouveau album.
C'est un nouvel album.
C'est vraiment très engagé là.
Ça, c'est le nouvel album
de Maurice Kanté.
L'album s'intitule Sabou.
Mais je pense que les musiciens africains, ils font mieux.
Et la chanson que nous allons écouter s'intitule Mamba.
Mais il faut dire, je sais pas, la musique c'est Ramba Grande, on a droit à la parole. Il faut dire que quand ces musiciens font sortir des albums ou quand ils sont en tournée au Canada, les Africains ne sont pas là.
Non, ils sont pas.
On a été au concert de Femi Kuti, ils n'étaient pas là. Je t'ai posé la question quand tu as vu Tikendia Fakoli 7 fois avant-hier.
Oui.
Est-ce que les Africains étaient là? Tu m'as dit, nous sommes minorités. Il y a un problème.
Je vous dirais quand même que les mêmes Africains étaient quand même, ils étaient quand même au rendez-vous jeudi dernier au stade Franck Clair de Lansdowne Park.
Pour le football.
Là où le Nigeria jouait contre la Zambie. C'était une bataille ou encore un duel interafricain comme on eut à le dire les médias canadiens.
Il faut peser les mots aussi quand on parle de bataille et qu'on tire ça de pays africains qui jouent. Je pense que le mot a une connotation qu'il faut.
On va y revenir.
Voilà.
8h46 minutes dans nos studios.
Anna, Alani Baloram Golo.
Minutes dans nos studios, amis auditrices et auditeurs. On était là en Guinée en compagnie de Maurice Kanté. Et lorsque la musique joue comme ça, nous en studio, on réfléchit quand même sur certains points forts.
On réfléchissait sur les points forts de l'actualité africaine, des thèmes qui vont être développés tout au long de l'émission.
On va parler de.
Mike a soulevé les problèmes de Chat Taylor. On va soulever ces problèmes. Le jugement d'Hissène Abré.
Hissène Abré.
Et puis. Il y a aussi la revue de la presse qui est préparée. Nous, cette semaine, nous allons venir avec trois pays qui nous intéressent.
C'est donc, ça, qui veut la peau de
Guillaume Soro, en fait. Ouais. En même temps, on va aussi revenir avec la presse allemande, avec trois pays. Donc, cette presse s'intéresse cette fois à trois pays.
La Somalie.
Donc, les Soudans.
Oui, le Soudan.
Avec les Darfour, la Somalie et les Zimbabwe.
Voilà.
Alors, ils soulèvent aussi les problèmes du Rwanda. Et j'ai parcouru encore la presse d'ici ce mois encore,
oui.
Ils reviennent encore avec les dossiers sur Chat Taylor. Donc, Mike, c'est comme s'il est vraiment en avance là, parce que cette presse est revenue des semaines avec la même.
Avec la même information, la même nouvelle.
Sur Chat Taylor et son jugement, oui.
Oui, en fait.
Le problème de Charles Taylor suscite quand même une certaine curiosité, un certain étonnement.
Je pense que nous ne sommes pas encore
du point de vue
dans ce
traitement qui lui est infligé. Jusqu'à la preuve du contraire, Taylor n'était pas saint. Mais
les choses
ne devraient pas se passer comme elles se passent maintenant. On aura l'occasion.
Justement, tu disais tout de suite là qu'il est arrivé au Nigeria, alors il y avait une promesse.
Il avait signé un accord
de paix. Donc, au nom de la paix, il sera protégé.
Au nom de la paix, il a quitté d'abord le pouvoir.
Oui, il a quitté le pouvoir.
C'est retourné
au Nigeria. Au nom de la paix. Alors, il devait être protégé par Obasanjo. Est-ce qu'il a été protégé?
Est-ce que Obasanjo a joué le panafricanisme ou bien. il a fait les jeux des autres, comme on l'a dit.
Et on raisonnait alors, il semble même qu'entre même les présidents africains, pour le moment, là, ils ne s'entendent pas très bien.
Kadhafi n'était pas d'accord avec
Bongo non plus.
Je pense qu'il y a la bouille entre Bongo et l'ancien et Obasanjo, en fait.
Non, mais depuis un certain temps, on dirait qu'il y a certainement des atomes crochus entre Bongo et les guides libyens.
Voilà, Max, ça paraît de très bon. Le dossier qui vient tout le long de l'émission.
En tout cas, l'Afrique est ici et l'Afrique est là, elle nous écoute. Donc,
et au sujet de Sénabré, Jean-Marie raisonnait, il me dit, mais écoutez Moulumba, on prend un Africain.
On va le juger en Belgique.
En Belgique. À supposer qu'un Belge avait commis des crimes sur les territoires africains.
Est-ce qu'on l'amènerait?
Non, est-ce que les Africains les jugeraient? N'est-ce pas que les Belges ou bien les Français diraient, vous nous ramenez-nous cet homme-là, nous on va les juger.
On va les juger chez nous.
Est-ce que la décision de les juger au niveau du Sénégal est-elle bonne?
À un certain moment.
Est-ce que ça veut dire qu'ils ne font pas confiance à la justice africaine, est-ce que la justice africaine existe?
En fait, c'est ce qui s'est passé aussi en Zambie, Mike. Tu sais, l'ancien président Chiluba, il a été condamné par les Britanniques.
Par une cour britannique.
Qu'il faut qu'il remette une affaire de 48 millions de dollars. C'est allé même jusqu'à 58 millions.
Et le gouvernement zambien a validé cette décision.
Mais la population monga a dit, non, ça, la population vrai. Dit, pourquoi prendre un Africain, l'amener en Grande-Bretagne pour être jugé par, ils disent, les Blancs.
Il n'y a aucun occidental, français, américain et autres,
canadien,
que la fameuse loi des compétences universelles belge pourrait juger.
Voilà.
C'est-à-dire, la fameuse loi là n'est mise sur pied que
pour les Africains.
Un point, un trait. On l'a eu à un certain moment. Il y a des gens, les Irakiens et autres, et certains Palestiniens qui avaient dit qu'ils voulaient recourir au nom, qu'ils voulaient user
de cette loi-là pour attaquer Ariel Sharon
et George Bush. Jusqu'à la preuve du contraire, le Parlement belge a fini par revoir ou encore modifier cette loi.
Moi, je vis quand les paysans Chiluba étaient condamnés par cette cour britannique, le journal des postes. Qui est le plus lié en Zambie, qui fait sortir cet article. Et tu connais les Zambiens comment ils sont. On était dans la rue, on parcourt un peu les headlines là. Tu vois les Zambiens qui disent, ah ouais, it can't happen.
Même lui-même, Chiluba l'a dit.
How can you just take this former president to take him to British court?
Chiluba lui-même avait dit qu'il n'était ni président Zambien, ni ex-président britannique, ni citoyen britannique. Et par conséquent, la justice britannique là n'avait absolument rien à voir avec lui.
Parce voilà, c'est comme ça que l'Afrique se porte. En fait, vous êtes à la maison, c'est sûr que vous êtes en train de prendre votre café.
Voilà, nous sommes.
On le prend avec vous.
Africains à l'émission africaine.
Voilà.
Nous ne sommes pas bonjour l'Afrique comme les autres le disent.
Vous déménagez, vous voulez envoyer de la marchandise? Web Cargo Express se spécialise en dédouanement, en transport de marchandises et en logistique. Web offre un guichet unique pour tous les services de déménagement de l'origine jusqu'à la destination finale, ainsi que des services d'emballage, d'entreposage et d'assurance. Avec un service axé sur les demandes de la clientèle, vous pouvez compter sur Web Cargo Express pour vos besoins en services d'expédition à l'échelle mondiale par voie aérienne, maritime et routière. Pour plus de renseignements, visitez le web-inc.com ou appelez le 613-828-8381.
Ah, je me sens mieux.
Pourquoi?
Je viens de changer mon assurance maison, voiture et vie. J'ai choisi les coopérateurs comme assureurs et ils m'ont offert un rabais incroyable.
À qui avez-vous parlé?
Mon agent coopérateur, Edouard Ilunga, 7131 rue Strenhardt, suite 202.
Je devrais les appeler. Comment est-ce que je peux les rejoindre?
Par téléphone au 613-825-1322. Tu seras content d'avoir appelé.
Les coopérateurs, une place de choix.
Blackstar Video, situé au 155 rue Preston, est l'endroit à Ottawa à visiter pour obtenir vos films, séries télévisées et DVD musicaux africains et des Caraïbes en anglais et en français. Au Blackstar, vous pouvez louer 4 films à $9.99 par semaine ou acheter un film à seulement $5.99. Venez aussi voir le magasin Preston Soccer où vous pouvez acheter tout l'équipement de soccer dont vous avez besoin. Rendez-vous au Blackstar Video et Preston Soccer, 155 rue Preston, entre Somerset et Gladstone.
Vous déménagez ou vous voulez envoyer de la marchandise? Web Cargo Express se spécialise en dédouanement, en transport de marchandises et en logistique. Web offre un guichet unique pour tous les services de déménagement de l'origine jusqu'à la destination finale, ainsi que des services d'emballage, d'entreposage et d'assurance. Avec un service axé sur les demandes de la clientèle, vous pouvez compter sur Web Cargo Express pour vos besoins en services d'expédition à l'échelle mondiale par voie aérienne, maritime et routière. Pour plus de renseignements, visitez le web-inc.com ou appelez le 613-828-8381.
Alors écoute, d'ici l'Afrique, l'Afrique qui parle à l'Afrique et au monde, 9h dans nos studios, 15h à Harare, à Lilongwe et à Windhoek, camis auditrices et auditeurs, voici maintenant notre journal. Le titre pour commencer, Soudan, le Conseil de sécurité des Nations Unies propose une résolution prévoyant l'usage de la force et l'envoi de 26 000 hommes au Darfour. République démocratique du Congo, l'ONU éclaboussait les casques bleus indiens de la MONUC impliqués dans un trafic d'or avec les rebelles rwandais dans les territoires de Masisi. Somalie, Mogadiscio sévit de sa population à la veille de l'ouverture de la conférence pour la paix que les islamistes boycottent. Djibouti, nouveau rebondissement des vagues dans l'affaire Borrell. Nous passons rapidement au développement de nos actualités. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a présenté hier un projet de résolution permettant l'usage de la force et l'envoi de 26 000 hommes au Darfour pour protéger les populations civiles et le personnel humanitaire. Soutenu par la France, la Grande-Bretagne et le Ghana, l'adoption de cette résolution est le préalable indispensable à l'envoi des troupes d'interposition mandatées par l'ONU. Cette opération associant l'ONU et l'Union africaine serait désignée mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour et intégrerait le 7000 soldats déjà envoyés par l'Union africaine sur le terrain. Des casques bleus indiens de la mission des Nations Unies au Congo ont été impliqués dans des trafics d'or avec le rebelle Hutu rwandais dans la province du Nord Kivu dans les territoires de Masisi, révèle des documents internes à l'Organisation des Nations Unies. Ces casques bleus ont pendant 2 mois échangé des rations alimentaires et le renseignement contre des l'or et des dollars avec des rebelles de force démocratique de libération du Rwanda. Dans une note confidentielle adressée en juillet 2006 à un haut responsable de la MONUC, un officiel de la mission recommandait le renvoi du général Satyanarayana, commandant du bataillon indien à New Delhi, alors qu'est débutée une enquête interne sur ces trafics impliquant lui et d'autres officiers agissant sur ses instructions. L'opération militaire contre les FDLR lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo avec l'appui de la MONUC en octobre 2005 dans le parc de Virunga n'a eu aucun impact sur le FDLR qui était bien informé de la date et du lieu de l'opération, indiquent les documents de l'ONU dont l'agence panafricaine a obtenu copie. La Côte d'Ivoire a demandé aux Nations Unies d'enquêter sur la tentative d'assassinat de son premier ministre Guillaume Soro. Guillaume Soro a été nommé premier ministre en avril dans le cadre d'un accord de réunification du pays conclu et signé sous les auspices du président burkinabé Blaise Compaoré à Ouagadougou. Beaucoup d'observateurs pensent que les auteurs de l'attentat manqué sont des rebelles déterminés à entraver l'application de l'accord de paix qui leur impose de se désarmer et de renoncer à certains pouvoirs et avantages. Rappelons que l'avion transportant Guillaume Soro avait essuyé le 29 juin à l'aéroport de Boaké des tirs de roquettes qui avaient fait 4 morts dans son entourage. L'ex-président tchadien Hissène Habré sera jugé au Sénégal pour crimes contre l'humanité en lieu et place d'une juridiction spéciale comme le tribunal pénal pour le Rwanda ou la Cour pénale internationale pour l'ex-Yougoslavie. Le président de la République sénégalaise Abdoulaye Ouad opte pour une juridiction des droits communs pour juger Hissène Habré. Formule moins coûteuse, a indiqué hier le ministre sénégalais de la Justice, Cheikh Tidiane Sy. Mais les organisations non gouvernementales déplorent qu'aucun progrès notable n'ait été réalisé et demandent à l'Union africaine de faire en sorte que les procès soient organisés rapidement. 9h05 dans nos studios, 13h05 en temps universel et à Thiès au Sénégal. 16h05 à Mogadiscio qui s'évide de sa population depuis hier.
Des milliers de personnes fuient la capitale somalienne à pied et en voiture par crainte d'une recrudescence de la violence à l'approche du début d'une conférence de paix qui doit commencer demain et que les islamistes vont boycotter. Plus ou moins 2300 délégués sont attendus pour cette conférence pour la paix qui se tient dans un climat très tendu depuis la défaite des tribunaux islamiques. Mogadiscio est secoué par des violences quasi quotidiennes qui ont fait 200 de morts, essentiellement des civils, et provoqué le déplacement de dizaines. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appuie le pourparlers entre le Maroc et le Front Polisario entamé depuis le mois dernier à New York, où les deux parties semblent d'accord pour reprendre le pourparlers avec leurs voisins algériens et mauritaniens. Dans un communiqué publié hier à New York, le Conseil de sécurité se félicite de ces pourparlers et espère que ces négociations aboutiront à un accord. Signalons que le Maroc et la Mauritanie se sont partagés le territoire du Sahara occidental après le départ des Espagnols en 1976. En 1979, le Maroc s'emparait ainsi du territoire abandonné par la Mauritanie et en prenait le contrôle administratif. Mais le Front Polisario a combattu le Maroc jusqu'au cessez-le-feu de 1999 pour revendiquer la souveraineté de ce territoire qui est le Sahara occidental. L'épouse du président français Cecilia Sarkozy a rendu visite jeudi à Tripoli aux infirmières bulgares condamnées à mort en Libye et aux familles des enfants contaminés par le virus du sida à Benghazi après avoir rencontré dans la matinée le numéro 1 libyen, le colonel Muammar Kadhafi, qu'elle a revu dans la soirée. Madame Sarkozy a précisé que sa visite en Libye n'était pas officielle et qu'elle était envoyée par le président français en tant que mère pour exprimer le soutien de la France aux enfants. Rappelons que cette visite intervient au lendemain de la confirmation de la peine de mort pour les 5 infirmières et le médecin bulgare accusé d'avoir inoculé les virus du sida à des centaines d'enfants en Libye. Verdict qui sera confirmé ou cassé lundi par le Conseil supérieur des instances judiciaires. Mais de son côté, la fondation Kadhafi qui dirige Seif al-Islam Kadhafi, fils du guide libyen, a annoncé qu'un compromis sur les compensations de familles des enfants contaminés avait été trouvé. Le procureur général de Djibouti a jugé hier inconcevable qu'un ancien ministre de la justice djiboutien ait pu charger les juges Bernard Borel d'enquêter sur des trafics auxquels l'actuel président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, aurait été mêlé. Thèse créditée par la justice française que le procureur djiboutien Djama Souleymane Ali qualifie d'étape supplémentaire dans l'intoxication et la manipulation de l'opinion publique. Signalons que le corps du juge Bernard Borel, qui travaillait au titre de la coopération auprès du ministère de la Justice de Djibouti, a été retrouvé le 19 octobre 1995 à 80 km de Djibouti et les autorités françaises et djiboutiennes avaient privilégié la thèse des suicides. Mais depuis les débuts de la présidence de Nicolas Sarkozy en France, Paris privilégie désormais la thèse d'assassinat avec la complicité de l'administration Chirac, dont les domiciles de l'ex-monsieur Afrique à l'Elysée Michel de Bonne-Corse ont été perquisitionnés dans le cadre de cette affaire. 9h09 dans nos studios, 16h09 à Djibouti. Amis auditeurs et auditeurs, nous arrivons à la fin de nos actualités. Et si vous nous avez capté en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Soudan, le Conseil de sécurité des Nations Unies propose une résolution prévoyant l'usage de la force et l'envoi de 26 000 hommes au Darfour. République démocratique du Congo, l'ONU éclaboussait les casques bleus indien de la MONUC impliqué dans un trafic d'or avec le rebelle rwandais dans les territoires de Masisi. Somalie, Mogadiscio s'évide de sa population à la veille de l'ouverture de la conférence pour la paix que les islamistes boycottent. Djibouti, nouveau rebondissement des vagues dans l'affaire Borrell. Amis auditrices et auditeurs, ainsi va l'Afrique. Et nous vous rappelons que nous sommes accessibles en studio, c'est le 613-562-5967 qui est notre numéro d'appel.
Professeur Paulo Santa, le royaume des Pays-Bas. Bienvenue mon Gondo, Makani de Paris, Didier Mpele quoi, Papa Djani.
Cette fois-ci, Nanaye, Painayo, Ouye Bissana, Soki vraiment na motema, Nayo Linga Kanga, Jean-Jacques Moutoile,
Betty Moulanga,
Sakanga, Takokota, Keyo Linga Kanga. Fils Kata, un jour, ce sera vraiment le plus beau jour de ma vie à Boukébé, Fifi Mbondani.
Mikonza ou Nabidjan.
Souci et non qui s'imvoula, Namote Mananga, Malobaya Kamouletère et Bulldozer, et Kozala, parapluie na mémoire, Yaromelo, quoi Nkondo.
Papi Sasa Ojima.
Oh, oh, oh Jean-Jacques Moutoile, tu parais comme un prince charmant. Sokingana s'approchait, Bembe Nina Yona Vivaka, printemps avec prolongation.
Yo néglige, je suis perdu. Nazalia wa sans espoir. Traumatisme carnivore, Kasi Elia Kanzoto ya moto aimé. Ambassadeur voté singa supérieur. Décision finale la vie à moto. C'est la mambo kwanzambe. Kasi pona libala na yo. Nako senga na zambi. Amour na yo ezala senga. Ejide bima bima petit mopao. Loli lola lolola. Ronaldino je trompe la. Pedi kwanza le joker. Olingonaya epa nangae. Lokola likasa na zete. Mopepe e makasi. Ekwesi likasa na nyakoka. Lisusu kozongi saboli mwangoe.
Nanumo sese. Parfait ma bengue le synagogue. Alain Mambouini, Michel Mbayabu, Thierry Iolo.
La coca moi, sa bolingo. Yuma zalapate, ya kefe a zalakate.
Gelor VIP.
Sili singa loleto na soto.
Odar Kwanza.
Ote mananga eko ambi mwazile kole kakulu se aya mabere.
Steve Kunzi.
Bolingo eza akumbu kutonda na yo apeti ya moto ya lingaka. Vote singa ambassadeur Fredi Kwanza Ejide bima bima.
Yo tata rezone kofuta kambo mwono liba la peko kaka. Ae marke histoire go.
Ah!
pepela.
Dans nos studios, nous allons maintenant passer à notre revue de la presse. Dans la presse africaine, nous allons d'abord nous rendre au Darfour.
Oui, mais c'est-à-dire, c'est la revue de la presse allemande. Donc,
oui.
Et il parle beaucoup de l'Afrique. Alors,
Darfour ou encore le Soudan dans la presse allemande.
Oui, oui. Alors, les Frankfurt Zeitung, tout d'abord, nous retrace l'histoire de cette province occidentale du Soudan qui a été l'objet de bien des convoitises. Il y a plusieurs siècles, écrit le journal, Darfour a été sultanat relativement puissant, mais depuis qu'il fait partie du monde moderne, il a presque toujours souffert de deux fléaux. D'une part, sa négligence par le gouvernement central, et de l'autre, les ingérences extérieures. Et pour le gouvernement de Khartoum, le Darfour est tout à fait à l'ouest, très loin, mais pas au point d'y tolérer des rébellions ou des sécessions. Alors, les milices, par exemple, sont chargées de le ramener à la docilité, elles le font par la cruauté et par ailleurs, poursuit le journal, pour les voisins occidentaux, les Tchad, les noyaux de l'ancien sultanat de Barnou Karen, le Darfour est situé très à l'est, mais pas au point de laisser le Tchad indifférent à son sort. Donc, en période, par exemple, des crises de ces derniers jours, on a toujours voulu un droit de regard au Tchad. Donc, le Soudan a toujours voulu avoir un droit de regard là. Et puis, le Darfour, note plus loin le journal, a souvent fait l'objet aussi de convoitises libyennes. Alors, Marc, tu vois, donc, il y a là-bas le Tchad, il y a en même temps la Libye, qui a aussi des intérêts. Donc, il y a un regard là sur le Darfour. Il y a le Tchad aussi qui a un regard. Donc, c'est une région un peu problématique.
Donc, ce que la presse ne dit pas, pourquoi est-ce que ces pays-là ont un regard, en fait.
C'est ça l'anguille
voilà,
sur rouge.
Voilà l'anguille sur rouge avec le Darfour. On ne dit pas toujours.
Qu'il faut effectivement mettre sur la table.
Ouais, on dit qu'il y a génocide, mais.
Prenons. En termes très simples, on dirait que le Tchad n'est pas totalement innocent.
Oui, c'est pas des enfants de cœur, c'est vrai.
De ce qui se passe au Darfour. Oui. Parce que quand on voit le président, l'actuel président tchadien, Idriss Déby, la rébellion qu'il a portée au pouvoir en N'Djamena partait de là.
De là, oui.
C'est ça le berceau.
On ne le dit pas souvent, depuis.
On parle de Idriss Déby qui est de l'ethnie Zagawa, comme on le dit. Ces Zagawa-là, oui. On les retrouve à la fois dans l'extrême est du Tchad et les Zagawa-là se retrouvent au Darfour aussi. Ce qui fait que dans tout ce qui se passe au Tchad, il y a, au Darfour, disons, il y a une implication tchadienne. L'implication tchadienne est évidente. Qui dit implication tchadienne, c'est dire on voit la France quelque part, à un certain niveau.
La Grande-Bretagne aussi.
La France son intervention musclée ou encore ses derniers efforts diplomatiques visant à ramener la paix au Tchad, aux yeux des observateurs avisés, ce n'est qu'un arbre qui cache toute une forêt. Ce n'est qu'un arbre qui cache toute une forêt. Lorsqu'on prend les États-Unis, regardons dans beaucoup de pays sur le continent africain, on peut tout simplement dire que comparaison n'est pas raison.
Oui.
Mais lorsque on se sert d'instruments d'analyse, ça nous permet quand même de comprendre certaines réalités. Prenons le Niger. Il y a eu des sécheresses là-bas, il y a eu des calamités naturelles. On n'a pas vu aussi une mobilisation de la communauté internationale pour aller aider les Touaregs et autres dans le Niger qui mouraient de faim. Mais le problème du Darfour, là, intéresse presque tout le monde. Croyez-vous que c'est par amour seulement des pauvres villageois africains qui sont dans les Darfour que la communauté internationale se mobilise autant?
Mais même si ça intéresse tout le monde, en fait, il y a toujours autant de choses. Il y a même les ONG sont persona non grata là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'ONG qui sont présentement sur le terrain. Et celles qui sont là, on peut les compter du bout des doigts, Mike. C'est peut-être comme un tapage médiatique, une sensibilisation comme bien d'autres à un moment donné, mais sans effet concret. Les réfugiés sont toujours là depuis plus de 4 ans, comme ils disent que la guerre existe. Ces gens là sont toujours à la même place, en fait les conditions n'ont pas changé. J'ai regardé encore un documentaire dans une émission française qui s'appelle Complément d'enquête, en fait, où on parlait du Darfour et tout. La situation, elle était pratiquement aussi catastrophique qu'il y a 4 ans. Et voilà, on parle du Darfour, mais c'est comme si rien n'est fait. C'est un peu, ça me rappelle un peu le cas de notre pays, la Somalie, où on en parle et on en parle. Et je pense qu'il faut ramener tout le monde au bout de la table et essayer de trouver une solution africaine, en fait.
Voilà, parlant de Somalie, non, je pense Mike a un mot à dire.
Oui, c'est juste un complément au sujet du Darfour. Peut-être ce sera le dernier point. Au sujet du Darfour, il y a un accord de paix qui a quand même été signé par presque tous les protagonistes de la crise du Darfour, les protagonistes soudanais du moins de la crise du Darfour, sous l'égide de l'Union africaine à Abuja. Selon le gouvernement de Khartoum, le respect de cet accord-là, bon, c'est pas seulement le gouvernement de Khartoum, oui, l'Union africaine de façon générale, qui avait parrainé et soutenu
cet accord.
Oui. Ils disent que la mise en application de cet accord améliorerait davantage la situation sur terrain. Oui. Mais la communauté internationale, lorsqu'elle met pression sur le gouvernement de Khartoum, ne fait vraiment pas allusion aux rebelles qui refusent d'appliquer cet accord-là de paix d'Abuja. Moi, je pense que la meilleure des façons d'aider les Soudanais, c'était de soutenir d'abord la mise en application de cet accord de paix signé à Abuja, sous l'égide de l'Union africaine, puisque l'Union africaine pour les Africains fait partie aussi de la communauté internationale. Qu'on ne nous dise pas que ça ne devient communauté internationale que lorsque la France y met son pied, l'Angleterre et les États-Unis.
Voilà, je ne sais pas si André me permet juste une minute. Oui, il me regarde, donc ça veut dire qu'il me permet. Voilà. Parlant du Darfour, c'est la dernière chose pour moi. La dernière petite conférence qu'il y a eu à propos du Darfour, elle s'est passée avec Bernard Kouchner en France. Et les Soudanais n'y étaient pas, l'Union africaine n'y était pas, en fait. Alors, on parle.
Est-ce que c'est la conférence qu'on a appelée conférence internationale sur les Darfour.
Voilà. Ce qui avait amené la presse burkinabé, le journal, l'Observateur Balga, Ouagadougou, attitré conférence de paix sur les Darfour, 2 points, les Africains infantilisés.
Voilà, alors on va maintenant à la Somalie, Mike et Jean-Marie Vianney. La Somalie, elle a connu ces derniers jours un regain de violence, principalement à Mogadiscio, et la presse allemande s'en fait l'écho. Alors Mogadiscio sera-t-elle bientôt un deuxième Bagdad? Donc c'est ça la question que les journaux posent. Donc c'est en tout cas ce que craignent beaucoup d'habitants de la capitale somalienne, notent les journaux allemands. Alors, il se peut qu'il y a des bombes dans les rues de Mogadiscio qui sont cachées même dans des ordures. Alors, même la force interafricaine qu'on a déployée sur place a du mal à travailler. Vous pensez que ça devient un deuxième Bagdad, comme les journaux le pensent?
Moi, je pense que le parallélisme est inquiétant.
Oui. Le parallélisme est inquiétant. Prenons le cas de l'Irak. Saddam Hussein, un dictateur, un sanguinaire, sous la dictature de Saddam Hussein, on ne voyait pas des batailles inter-ethniques en Irak, là où les sunnites et les chiites s'entretuaient tout simplement parce qu'ils étaient sunnites ou encore chiites. C'est dire, il était dictateur, mais il y avait quand même un semblant d'État qui existait en Irak. Mmh. En Somalie, on avait Mohamed Siad Barré, dictateur aussi comme Saddam Hussein, qu'on a mais chassé qui... dans des circonstances que nous connaissons.
Mais pendant son temps, il y avait quand même un pays.
Oui, il y avait un pays avec une très grande folie de grandeur.
Il était question, par exemple, de les conscientiser pour qu'il ne soit pas dictateur, mais qu'il soit quand même un paysan normal.
Saddam Hussein avait des visées sur le Koweït. Mm-hmm. Siad Barré en avait sur l'Ogaden. Mm-hmm. Ce qui avait même conduit à la guerre de l'Ogaden l'Éthiopie et la Somalie.
Et je pense que c'est ce qui explique que les Somaliens ne veulent même pas sentir un Éthiopien sur place.
Un Éthiopien chez eux. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation telle que, depuis la chute de Mohamed Siad Barré en 1991, qu'on se les dise, la Somalie n'a pas un gouvernement central. La Somalie n'a pas d'État. C'est-à-dire c'est un État qui n'existe
pas. Un État qui n'existe pas, en fait.
Lorsqu'il y a des sommets de l'Union africaine, qui représente la Somalie? Personne. Le gouvernement qu'on a mis sur pied, le gouvernement qu'on appelle de notre président Abdoulaye, si c'est quoi là, n'a pas droit, n'a aucune compétence sur la Somaliland, par exemple.
J'aime ça la façon dont tu dis Abdoulaye, si c'est qui là, en fait. Parce que c'est ce que les Africains disent en Afrique, en fait.
Et c'est vrai.
Ils disent, ce type là qu'ils ont nommé là.
Sur la Somaliland, la fameuse Somaliland qui est un État indépendant,
mais qui fonctionne quand même.
Qui fonctionne quand même, ça c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire en Somaliland, il y a un semblant.
Ils ont leur visa.
Les choses passent. Oui. Ouais. Mais dans le reste de la Somalie, ça ne marche pas. Regardons ce qui s'est passé dernièrement. L'intervention de l'Éthiopie, aux yeux des stratèges américains, puisqu'il faut se les dire ouvertement, ce sont les États-Unis qui ont cautionné cette histoire. Ce sont les États-Unis qui ont envoyé les Éthiopiens là-bas. Oui. Et depuis que les Éthiopiens sont allés là-bas, officiellement, ils ont chassé les islamistes. C'est de la même façon que le parti Baas de Saddam Hussein a pris fuite à la chute de Bagdad. Mais prendre fuite, en réalité, c'est que ces gens-là, ce sont des armées seulement et se faufiler dans la masse. Et aujourd'hui, Mogadiscio est invivable.
Oui. De l'autre côté, il y a une façon politiquement correcte, je ne sais pas si vous la voyez autant que moi, de toujours vouloir labelliser les autres terroristes et islamistes. Et donc les Somaliens qui sont possédés par un sentiment de nationalisme sont aujourd'hui taxés de terroristes.
Mais il faut les problèmes.
D'islamistes en fait, et puis ça a une connotation négative en fait.
Mais le problème avec la Somalie, il faut aussi dire qu'après plus de 10 ans, mon gars, quand les choses ne fonctionnent pas bien, même si vous êtes islamiste ou modéré ou quoi, il faut quand même reculer.
Reculer, c'est dire
non, nous avons droit à avoir un pays.
Les gens peuvent reculer. Et aujourd'hui, dans les rues de Mogadiscio, si vous arrivez à Mogadiscio, les gens vont vous les dire. C'est textuellement comme en Afghanistan à l'époque. Les talibans avaient leurs méfaits. Mais drôlement parlant, c'est sous le règne des talibans que l'Afghanistan a connu sa stabilité depuis l'invasion soviétique de l'Afghanistan.
Et la question que moi je pose, c'est de savoir en fait, quoi choisir? Quoi choisir, André? Est-ce que c'est le régime oppressif ou le régime avec le gant de velours?
La meilleure des solutions, c'était de favoriser le dialogue inter-somalien. Il fallait mettre les Somaliens, les islamistes là et les autres autour d'une même table.
Ils ont organisé quelque chose à Londres, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnait en fait.
Ils ont organisé quelque chose à Londres, c'est que les Somaliens eux-mêmes ne sont pas maîtres de ces quelque chose-là qu'ils ont organisé à Londres. C'est-à-dire qu'on organise quelque chose à Londres financé par la communauté internationale avec la très forte pression des États-Unis qui ne veut pas des islamistes.
Oui.
Alors que ces islamistes-là sont somaliens au même titre que tout le monde, vous dites. Vous autres islamistes, on ne veut pas de vous parce que vous êtes radicalistes et ne venez pas à cette conférence de paix et vous voulez faire la paix pour la Somalie.
Un autre aspect, André Blomba, si tu me permets encore, un autre aspect pour terminer. Le Soudan, comme la Somalie et comme d'autres pays en guerre, et peut-être l'Irak aussi, je ne suis pas encore allé. Mais il y a un phénomène qui se développe. Pendant que ces pays-là sont en chaos, il y a beaucoup de business qui se passe. Est-ce que c'est une organisation, est-ce que c'est une machination pour mettre ces pays dans ces situations-là?
Je pense que c'est
pour que les businessmen ou les gens font du business sur le dos et le sang des autres.
Je pense que c'est ce qui s'est passé pour le Congo. Ce n'est pas seulement Somalie voilà, ou Irak, voilà. Pour le Congo. Parce que pendant qu'il y avait la guerre,
les affaires marchaient. Les affaires marchaient. Et la guerre, même, on se demande. Toutes les milices qui pilulaient pendant la guerre, là, d'où est-ce qu'elles trouvaient l'argent pour s'acheter les armes?
Voilà. Et comment les choses rentrent? Comment est-ce qu'elles sortent? Et puis, si on se réfère aux médias internationaux, en fait.
En fait, c'est, pour répondre à ta question, c'est que le journal allemand répond à cette question-là et soulève la question des intérêts extérieurs. Là, il y a, par exemple, des privés qui sont là, qui ont investi beaucoup d'argent dans la région ou qui veulent, par exemple, s'emparer des mines d'or ou qui veulent faire un grand marché, vendre les armes quelque part. Oui. Parce que ce qui intéresse les multinationales, c'est les bénéfices, par exemple.
Voilà, parce que
qui est, par exemple, au niveau de l'Afrique, 200 morts par jour ou 1 million de morts, ça va dire quoi?
Si les affaires peuvent marcher, si
les affaires marchent.
Leurs finances peuvent bien fonctionner.
Parce qu'on se réfère au livre de Roméo Dallaire. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? On savait que les gens devaient mourir au Rwanda. Mais quelque part, on s'est dit, oh, mais peut-être ils sont très nombreux, c'est leur culture.
Mais lui aussi, ouais, il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet de lui. J'ai eu l'occasion de lire le livre de...
Shaking the Hand with the Devil.
Ça c'est Dallaire qui écrit ça.
Oui, c'est ce livre-là, je l'ai lu aussi. Oui.
Il y a le patron de Dallaire qui parle maintenant. De Jacques Roger Bobo.
Le Camerounais qui
était patron de la mission des Nations Unies au Rwanda à l'époque, qui était le patron de Dallaire.
Oui.
Du début jusqu'à la fin, il démolit totalement le « J'ai serré la main du diable » de Roméo Dallaire.
Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est juste un exemple que j'ai donné.
Il y a action et réaction, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est,
il y a action et réaction.
C'est la vérité qui souffre tout le temps.
Pour ce qui est de la Somalie, c'est que les bases de la réconciliation telles que conçues par l'Occident ne font vraiment pas l'affaire de Somaliens.
Voilà, sans surprise, la presse allemande consacre aussi un bon nombre d'articles à l'un des thèmes favoris, à savoir la situation au Zimbabwe. On l'appelle thème favori. Et vous savez pourquoi. Alors, les Zimbabwe qui s'enfoncent dans les chaos économiques, écrit le Berlin Zeitung. Et ce sont en fait toutes les structures économiques du pays qui ont sauté depuis l'expropriation des fermes blancs. Et la production agricole a baissé d'un quart, ce qui a des incidences non seulement sur la situation alimentaire, mais aussi sur l'histoire. Alors, cette dernière, comme on le sait, était principalement orientée vers la fourniture des machines à l'agriculture. Elle n'a plus de clients. Alors, des centaines d'usines ont fermé et les travailleurs ont été licenciés. Le taux de chômage est passé à plus de 80%. Aussi, comme conséquence, poursuit le journal, la pénurie des devises, les exportations de maïs, de tabac et de tomates fournissaient aussi 34% de revenus, donc des recettes. Donc pour le moment, le pays n'a pas de devises. Alors, il y a par exemple, on disait encore avec toi, Jean-Marie, la semaine passée, un journal, un journaliste qui écrivait depuis Bulawayo, que les taux, l'inflation est à 15 000%.
Il peut mettre ça à 30 ou 40 000%.
On peut même vous parler de 100 000%.
Alors, les journaux,
le Zimbabwe, André Mbache de Koupa, est devenu le pays des records de chiffres pour le BBC, CNN.
Au-delà de toute considération, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que avec toute cette déconfiture, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, comme on nous la présente, les Zimbabwéens intéressent toujours. C'est-à-dire, intéressent toujours l'Occident.
Ouais.
Ce qui revient à dire que le problème du Zimbabwe, si vous regardez l'histoire de ce pays-là, son accession à l'indépendance, ça nous permettra au moins d'éclaircir certaines zones d'ombre.
Il faut avouer que le Zimbabwe a eu son indépendance. C'est l'un des derniers pays quand même à avoir eu son indépendance en 1980.
Le Zimbabwe accède à l'indépendance en 1980. C'était le 16 avril.
Le 16 avril, en fait. Oui.
Avec Robert Mugabe,
avant même l'indépendance. Avant même l'accession du Zimbabwe à l'indépendance, il y a toujours les négociations des coulisses, comme on l'a dit. Les négociations des coulisses, là, dans le cadre du Zimbabwe, officiellement, on parle des négociations encore de l'accord de Lancaster House. Yeah. Bon, c'était à Londres, bien sûr, là où ça s'est tenu. Oui. Avant 1980, personne ne pouvait s'imaginer un Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe. C'est-à-dire, les leaders les plus en vue à l'époque, c'était Joshua Nkomo. Mm-hmm. Et comment est-ce que la Grande-Bretagne a défenestré Nkomo pour propulser Mugabe? Aujourd'hui, ce qui se passe au Zimbabwe, je dirais que la Grande-Bretagne, c'est comme un monstre ou encore un démon qui s'est fait rendre la pièce de la monnaie. Ils ont défenestré Nkomo. Mulumba, toi, tu viens de là.
Tu comprends très bien.
C'est-à-dire la composition de la population du Zimbabwe. C'est-à-dire le Zimbabwe, c'est 85% les Shona et moins de 15% les Ndebele.
Oui.
Mugabe, il est de l'ethnie majoritaire, les Shona.
Oui.
Nkomo était Ndebele.
Mm-hmm. Il faut dire, moi, je ne te coupe pas, que ce sont les Ndebele qui fuient beaucoup les Zimbabwe.
Mm-hmm. Oui. Ouais. Ndebele, c'est que, à l'époque, lorsqu'on luttait contre le pouvoir de Ian Smith, Mugabe recevait le soutien de la Chine. Mm-hmm. Nkomo, qui était le leader le plus en vie,
oui,
lui recevait le soutien de l'URSS. Et durant cette période, 1980, 79, 80, nous sommes en pleine guerre froide.
Oui. Donc il faut choisir entre les deux.
Toute alliance avec l'URSS,
vous devenez le petit démon. Normal qu'on peut dire toute alliance avec l'URSS, à l'époque, tu deviens islamiste.
Islamiste.
Aujourd'hui, oui.
Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le problème des fermiers là a toujours existé au Zimbabwe bien avant l'indépendance. Mais le problème, c'est que Mugabe, il a été propulsé par le gouvernement Thatcher à l'époque, en Angleterre, avec des astuces du genre, on te donne ça, c'est-à-dire on fait de toi président au détriment d'un Nkomo qu'on voulait défenestrer.
Oui.
Et une fois au pouvoir, tu garantis aussi nos intérêts.
Tu fais ça.
Là, il faut dire que le Zimbabwe, Mike, c'est un pays très bien construit.
Mugabe,
un bon road network. Alors les Britanniques, c'est vraiment comme chez eux.
Les Britanniques ont construit les Zimbabwe avec le même esprit qui les animait quand ils construisaient l'Afrique du Sud.
Ils construisaient ça, c'était
pour eux.
En fait, le Zimbabwe, c'est pas seulement un exemple comme ça. Il y a l'Afrique du Sud, le Kenya,
en fait, tous ces pays-là. Toute cette partie anglophone. Ceux qui ont trompé les Africains, il faut le dire, c'est seulement les Belges et les Français. Ils n'ont pas construit les pays francophones. Alors, tous ces pays anglophones, c'est bien construit, donc des très bonnes routes, des villes, tu peux voir que tu es dans une ville, c'est pas comme quand tu es, par exemple, je ne sais pas, à Douala ou bien à Kinshasa, tu vas trouver des puits où l'eau coule au hasard. Il y a encore une organisation là, vraiment, l'environnement.
Les gens respectent la loi, ils appliquent.
On respecte encore la loi.
Quand on peut la respecter.
Et c'est quand je suis arrivé alors au Zimbabwe, alors au Botswana aussi, que j'ai découvert que du côté francophone, il y a eu un mensonge quelque part.
Puisque quand tu arrives à Harare, justement, comme l'a dit Mulumba, je ne sais pas, lors de ton dernier séjour, si tu as eu à passer par le boulevard Sam Mujoma.
C'est le boulevard principal.
En plein cœur du Zimbabwe, de Harare.
Qui croise l'avenue Mandela.
Lorsque tu es sur le boulevard Sam Mujoma ou encore sur Samora Machel, en plein cœur de Harare.
Tu te crois à Toronto, par exemple.
Tu es à Toronto. Tu es à Montréal.
C'est pas la blague.
Tu es en Occident.
Tu es en Occident.
Maintenant, cette inflation-là, ça touche qui, Mulumba? Tu étais là-bas.
Ça touche l'homme.
Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on voit ça?
On sent ça.
Oui?
On sent ça parce que quand tu parles aux Zimbabwéens ordinaires, il te dit things are bad.
Les
choses ne tournent pas bien.
Oui. Ça ne peut que se faire sentir. Pour les gens, par exemple, qui pouvaient aller au magasin, acheter les histoires calmement et rentrer chez eux à la maison, aujourd'hui, ils vont au magasin, ces histoires-là ne sont pas là.
Mais il y a rareté des produits alimentaires, il n'y a pas de carburant. Parce que j'ai vu vraiment beaucoup de stations qui ont fermé. Alors un pain, par exemple, ça coûte aujourd'hui 35 000 dollars zimbabwéens.
Oui.
demain ça coûte 40 000, les jours suivants ça coûte 5 000. Donc les prix montent en flèche toujours comme ça. Mm-hmm. Donc la situation n'est pas très très bonne.
Le problème c'est qu'aujourd'hui, partout au monde, lorsqu'on prend l'économie, c'est-à-dire, on va vous dire, les adeptes de la doctrine de Wall Street, ils vont vous dire, c'est les laisser faire, laisser l'économie organiser les choses.
C'est le libéralisme économique, en fait.
Toute ingérence politique dans l'économie crée des problèmes. C'est dans cet ordre d'idées qu'on va vous dire, laisser le marché. Aujourd'hui, les gens peuvent se réveiller pour dire, un litre d'essence ici à Ottawa, 1,10$. Demain, 1,20$.
Oui.
Lorsque le marché le décide comme cela, laisser le marché lui-même, ça finira par descendre selon la loi du marché. Mm-hmm. Mais lorsqu'il y a une ingérence politique, les choses se compliquent.
Oui.
C'est ce qu'on dit. Mais justement, aujourd'hui, au Zimbabwe, on est dans une situation telle que le gouvernement a pris la décision d'obliger aux opérateurs économiques qui ont encore des choses à vendre, surtout les denrées de première nécessité, de couper à moitié. Le prix.
Justement, tu n'es pas. Quand on a cette déclaration, cette exigence a été faite quand j'étais encore à Harare. Ce qui fait que les jours suivants, il y a eu disparition des produits alimentaires.
C'est tout à fait normal, puisque ça crée. C'est-à-dire, il n'y a plus l'équilibre entre l'offre
et la demande, en fait. Ouais.
Lorsque l'équilibre c'est logique, en fait. Lorsque l'équilibre disparaît entre l'offre et la demande, ça veut dire que la demande est toujours élevée et que l'offre diminue. L'offre n'est plus là. Ça finit toujours par créer dans l'état normal des choses la hausse des prix.
Les journaux pensent aussi que les Zimbabwe, tout comme l'Afrique du Sud et le Botswana, pourraient peut-être venir au secours du Zimbabwe. Jean-Marie, qu'est-ce que vous pensez?
Je pense que l'Afrique du Sud a été toujours
au secours du Zimbabwe,
au secours de beaucoup de pays en Afrique australe, en fait. Tout en n'étant pas un enfant de cœur, l'Afrique du Sud aussi. Parce qu'elle elle gagne en économiquement parlant et puis politiquement aussi. Et c'est peut-être pour peser lourd dans cette région africaine que l'Afrique du Sud doit jouer ce rôle-là. Elle ne jouerait pas ce rôle-là qu'elle perdrait la face elle-même et personne ne l'écouterait. Et tu sais, en Afrique aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en train de vouloir monter comme cette puissance-là, et c'est peut-être l'une des raisons aussi qu'elle s'est opposée en défaut avec le colonel Kadhafi, en fait, concernant l'Union africaine. En fait.
C'est pas par choix que l'Afrique du Sud vole toujours au secours du Zimbabwe. L'Afrique du Sud est obligée de le faire, puisque qui parle de l'économie sud-africaine, l'économie zimbabwéenne, l'économie du Botswana
sont interconnectées.
Sont intégrées. Oui, ce sont des économies intégrées. C'est comme l'économie canadienne avec l'économie américaine. C'est-à-dire, il y a les bourgs là en Afrique du Sud, ils ont beaucoup d'intérêt au Zimbabwe. Ils ont beaucoup d'intérêt au Zimbabwe.
Ils n'ont pas de choix, en fait.
Lorsque le Zimbabwe va mal, économiquement parlant, ça veut dire que les bourgs perdent aussi.
Exactement. Voilà.
C'est pour cela que l'Afrique du Sud est obligée, puisque dernièrement, il y avait une proposition comme quoi le Zimbabwe et le Botswana devraient appartenir à la zone RAND.
Oui.
Bon, c'est le RAND qu'on devrait finalement utiliser comme monnaie partout là-bas. Mais le problème qui se pose, c'est que le pool là, du Botswana est encore beaucoup plus fort. Oui. C'est-à-dire, le Botswana n'a pas de problème. Oui. Le Botswana, même la population... Le Botswana n'a pas 3 millions de personnes.
Oui, c'est le pays africain où l'économie est le plus élevée.
L'espace dépasse, je dirais, c'est presque la même superficie que le Nigeria.
Oui.
Mais au Nigeria, on retrouve plus de 115 millions de personnes. Mais au Botswana, c'est moins de 3 millions de gens.
En passant, l'Afrique du Sud fournit l'électricité au Zimbabwe. Mais les grands fournisseurs d'électricité au Zimbabwe, c'est le Congo.
Oui.
Qu'est-ce que les Congolais ont à faire avec les Zimbabwéens en termes d'intérêt, par exemple?
En termes d'intérêt, il y a toujours la dette de la guerre. Les Zimbabwéens ont envoyé ces soldats au Congo. Ils sont allés mourir là-bas, Moulumba.
Et puis, je vis Mugabe à la télé, c'est-à-dire il y a eu des pressions occidentales quelque part. Oui. On voulait demander, je ne sais pas, la RDC découper ce courant-là.
Découper l'électricité.
Et Mugabe est apparu à la télé pour dire, imaginez-vous, on demande même à nos propres frères de nous couper le courant.
Quand on parle de ce problème du Zimbabwe, on met en avant la tête d'un homme, Robert Mugabe, en fait. Et quand on était ensemble, on visitait le jardin de Le jardin de la gouverneure générale, en fait.
Ici, on a vu Ottawa. Mugabe qui a planté un arbre.
On a
là-bas.
Vu l'arbre de Mugabe, Robert Mugabe, dans les années 90 à Ottawa. Il a planté son arbre là-bas. Et je me dis, est-ce que c'est l'homme qu'il faut faire partie, comme Saddam Hussein, ou la tête de l'homme dérange qui, Mike Mutyala?
Non, Mugabe, son plus grand problème, je dirais que c'est Tony Blair.
Pourquoi cette haine-là avec l'Occident, Mugabe?
Mugabe, c'est Tony Blair. Il n'y a pas une haine avec l'Occident. Souvenez-vous, lors des obsèques du pape Jean-Paul II,
oui.
Mugabe était à Rome. Le prince Charles était là-bas aussi.
On faisait de lui donner même le visa, mais le gouvernement italien avait dit qu'il n'avait pas de choix parce qu'il avait une immunité diplomatique.
C'était même un scandale pour le média britannique de voir le prince Charles serrer chaleureusement la main de Mugabe lors des obsèques du pape Jean-Paul.
Voilà, Marc, on va prendre une pause musicale et puis on va revenir maintenant avec les dossiers sur Guillaume Soro,
oui.
Charles Taylor et puis peut-être
Hissène Abré. Oui.
On rappelle à nos auditeurs que nous sommes accessibles en studio
au 562.
Voilà, il est, je ne sais pas mal quelle heure, mais je n'ai pas l'heure avec moi devant moi. Mais
9h45.
Avant d'aller au dossier chaud, donc de la presse allemande et de tout ce qu'on a sélectionné au niveau des journaux africains, nous avons un auditeur qui nous contacte depuis Montréal. Ça fait partie de la partie culturelle de la presse. Nous avons M. Tidiane Souma, qui est déjà en ligne, je pense.
M. Tidiane Souma, bonjour. Voilà, est-ce que vous êtes là? Je pense qu'il est le directeur de la programmation du Festival International Nuit d'Afrique, en fait. Il est en direct depuis Montréal. Il faut vous rappeler, mesdames et messieurs, que c'est un festival qui a commencé depuis le 12. Il continue du 12 au 22 juillet. Le 12 au 22 juillet à Montréal, en fait. Et Tiken Jafakouli a été l'artiste qui est invité spécial.
Qui a ouvert le festival?
Oui, c'était cette semaine, en fait, le 12 juillet. Alors, Monsieur Tidiane, est-ce qu'il est là, Michael, là, au bout du fil?
Oui.
Oui. Oui, allez-y. Bonjour de Montréal.
Oui, bonjour. Mon nom, c'est Serge Wello.
Oui.
Je suis Congolais de la RDC. Je vis à Montréal. Je dirige une ONG, Diaspora Congolaise de partout.
Oui.
Je suis vraiment heureux de découvrir la radio la radio communautaire de l'Université d'Ottawa.
Oui, on vous écoute, monsieur. Avancez. Je pense qu'on a perdu Tidiane, mais on oui. prend Serge. C'est pas
Allez-y, monsieur ouais. Serge. Oui,
ouais. Oui, je suis vraiment content de découvrir ici l'Afrique, cette émission qui met en valeur l'actualité et la culture africaine.
Vous nous écoutez par Internet là-bas à Montréal?
Oui, je vous écoute.
Donc vous êtes à l'écoute pour le moment?
Ça fait 11 ans que nous existons, mon frère.
Ah bon?
Oui.
Ouais, nous sommes là, ça fait 11 ans.
Et... Moi, au fait, c'est une amie à moi qui m'a fait part de ça. Elle travaille aussi deux fois avec vous. C'est Karine Minga.
Merci.
Que je salue en passant. Vraiment, je suis heureux et comptez-moi parmi vos fidèles auditeurs de ce jour.
En tout cas, Serge Wello, ça nous fait plaisir de vous avoir au bout de fil. On aimerait vous avoir aussi un jour puisque vous savez que vous êtes aussi sujet d'actualité.
Oh oui, quelque part, oui. Ouais.
Vous êtes aussi sujet d'actualité. je rappelle à nos auditrices et auditeurs que Serge Wello, c'est l'homme qui a éclaboussé le président Kagame lors de son dernier passage en pleine salle. On faisait les éloges du président Kagame. Serge Wello s'est déchaîné et il a crié sur le président Kagame qu'il était criminel. Et les gens faisaient les éloges d'un criminel, entre guillemets.
Monsieur Wello.
Présent,
Monsieur Wello.
Oui, je suis là.
Alors, refaites-nous savoir. Dites-nous, en fait, dites-nous un peu ce que vous lui avez dit. Dites-nous en direct, en fait.
Au fait, en fait, j'aimerais bien, si j'aurai l'occasion de me déplacer, venir sur place, si vous allez programmer toute une journée pour expliquer ce qui s'est passé. C'est un long processus, c'était pas quelque chose d'emblée là, c'était une organisation, c'était bien préparé au niveau de Montréal, toutes les organisations, tous les organismes communautaires de droits de l'homme de Montréal, des Congolais, des Rwandais, des Burundais. On était ensemble et moi j'ai joué comme le fer de lance de la stratégie, j'étais en face de lui et j'ai juste dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Donc si vous me donnez l'occasion, je vais passer un jour au plateau et j'aurai le plaisir de tout expliquer.
La porte vous est grandement ouverte, ça nous fera plaisir de vous avoir, Serge.
Merci beaucoup, hein. Vraiment je suis content de couvrir la radio Chio.
En tout cas, nous vous en prions et le plaisir est bien partagé. Bon week-end à Montréal.
À vous aussi, que Dieu vous garde.
Merci. Allez.
En fait, il faut aussi rappeler que la presse allemande avait aussi soulevé, je t'en parlais, Jean-Marie Vianney, les 25 ans des jumelages entre la reine amie Palatina et le Rwanda. Et cette semaine, la Rheinische Post nous apprend que notre gouvernement régional allemand, celui des Rhénanie du Nord, a aussi fait un jumelage avec les Ghana.
Je dois dire très clair que je ne crois pas à ces réunifications-là. Je trouve que c'est une perte de temps et c'est les paysans africains ont beaucoup plus de choses à faire qu'à relier la ville de Gatineau à la ville de Beau.
Je te disais quand on lisait cette presse que j'avais vu dans le temps, il y a quelques années, un bureau du Québec.
Voilà,
le Québec était jumelé à une ville congolaise. Et à la fin...
Je trouve que c'était un marché noir où ça sert quelques petits intellectuels bandits africains. Il faut arrêter ça. Je pense
c'est de la poudre aux yeux.
Voilà, c'est la poudre aux yeux. Il faut arrêter ces conneries-là.
Le commun des populations africaines là n'en sentent absolument rien.
Voilà. Le prochain dossier, on va une pause musicale et on revient avec le prochain dossier, le temps de voir si M. Tidjane rentre ou pas ou quoi.
C'est ça, s'il ne rentre pas, alors on va avec
le troisième dossier.
Issa
Nabwe ou...
Non, on parle avec Guillaume Soro
Guillaume Soro.
Je ne sais pas qu'est-ce que l'auditoire décide, mais on choisit.
On va avec Guillaume Soro.
On y va directement.
Ouais. Guillaume Soro, en fait, qui veut la peau de Guillaume Soro? Guillaume Soro qui est venu, on le sait, par les armes aussi. Comme les autres. Donc, il a pris les armes pour être là et qui a vu son avion se faire le 29 juin
bombardé. Il était victime d'attentat.
Et
d'ailleurs, il faut soulever que c'est ce qui a même retardé aussi le départ de Fakoly, Diafakoly sur la Côte d'Ivoire. Il devait aller là-bas pour faire les concerts de réconciliation. Alors, je l'ai vu sur l'émission Un beau baiser de France. Il disait, bon, je voulais partir. Mais je n'ai pas voulu aller parce qu'il y a attentat contre l'avion du Premier ministre, ce qui fait dire qu'il y a une réconciliation des mascarades.
Il y a une réconciliation des mascarades. Pour les gens qui se sont entre-déchirés à la manière de Gbagbo et Soro, il fallait toujours prendre en considération le fait que l'accord tel que signé par les deux protagonistes de la guerre, du conflit ivoirien, ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Ce qui fait que les extrémistes de tous bords n'y trouvaient pas leur compte. Et c'était normal. C'est justement ce qui s'est passé avec le président Abiyarimana.
Voilà,
en signant l'accord de paix avec la rébellion de Kagame,
il y avait déjà des Hutus
mécontents. C'est dire, ouais. Ça fait des mécontents dans le rang des Hutus, tout comme il y en avait dans le rang des
Hutus. Alors, qui a tué maintenant? On ne sait pas qui a tué.
C'est la gestion des ambitions, surtout la gestion des mécontents qui pose beaucoup de problèmes dans l'application d'un accord.
Mais il y a aussi un malin qui profite des mécontents là.
Absolument.
Pour commettre un acte.
Et moi, je voulais. En fait, ma question était de savoir de revenir à ces accords de paix en Afrique là, qui ont tué beaucoup de gens. Savimbi en est mort, John Garang en est mort, Abiyarimana Cyprien.
Savimbi n'était pas mort de ces
accords. Non, mais je veux dire quand même que.
John Garang, oui.
Et puis, il y en a beaucoup d'autres en fait qui sont morts comme ça. Le Kabila père, en fait. Il c'est vrai qu'à quelques exceptions près,
c'était pas dans les cadres des accords.
Mais je vais quand même dire, on peut faire des rapprochements.
Absolument.
Voilà. Alors, ces parallèles-là, ces gens qui disent, OK, aujourd'hui, on oublie ce qu'on était avant.
Robert Mugabe avait signé un accord.
Voilà.
Lui avait signé un accord de réconciliation avec Nkomo.
Parce qu'un Nkomo, jusqu'au dernier jour de ses jours, Nkomo est mort, vice-président du Zimbabwe.
Président de la République, oui.
Pour dire que sur ce point-là, Mugabe, il avait signé, il s'était mis d'accord avec le Britannique pour dire qu'on va l'ostraciser. Mais par après, lui, il a réhabilité encore. C'est un peu du machiavélisme. Ouais.
Même en Sierra Leone, ils ont signé un accord, pas avec Fode Sanko, et Fode Sanko, il est mort.
Mais il est mort,
on est allé le récupérer après dans les...
On a signé un accord de pas avec Charles Taylor.
Avec Charles Taylor. Obasanjo l'a livré.
Il reste seulement que Charles Taylor, mais bon, on va le mettre dans la liste.
Obasanjo l'a livré, mais le pire, c'est que Ellen Johnson, au pouvoir à Monrovia, ne voit toujours pas le bout du tunnel. Hein. Les problèmes se posent toujours sur le plan économique. Les robinets ne sont toujours pas ouverts. Les robinets sont toujours fermés. Les promesses.
Mais c'est-à-dire les promesses, donc l'argent. Je me souviens quand Jean-Marie Vianney soulevait les problèmes de Kabila Père. Mais à l'époque, Laurent Désiré Kabila avait dit ouvertement : où est l'argent ? L'argent que vous avez promis là, où est-ce qu'il est ?
On promet dans l'euphorie. Mais pour donner, ça pose toujours des problèmes. C'est pour cela qu'on dit que la communauté internationale, là, souvent, les intérêts de la communauté internationale sont toujours en conflit avec les intérêts des tiers-mondistes. Mais prenons par exemple quelque chose de curiosité, ça c'est en dehors de l'Afrique.
Oui.
La communauté internationale a toujours soutenu le président palestinien, Mahmoud Abbas.
Mm-hmm.
On le soutient verbalement, mais on ne lui donne pas le moyen. On ne lui donne pas le moyen pour implanter sa politique et se mettre sur pied. Mais de l'autre côté, les Hamas, que la communauté internationale déteste, se soutient, donne au Hamas les moyens nécessaires de sa politique. Et on a vu comment, c'est dire aujourd'hui, même les territoires occupés là sont divisés en deux. La bande de Gaza sous contrôle du Hamas et la Cisjordanie sous le contrôle de l'autorité.
Alors, au sujet de Guillaume Soro, vous pensez que d'une part, celui qui veut sa tête, ça peut être un extrémiste de son rang, ça peut être le gouvernement, tout est obscur.
Moi, je pense honnêtement que Guillaume Soro, il a pris les armes pour être là. Alors, les armes peuvent l'enlever là aussi. Je pense qu'il est temps peut-être de ne pas parler de ces choses avec le regard des autres. En tant qu'Africain, je pense qu'il faudrait que l'Afrique apprenne à résoudre ses problèmes.
Par la négociation.
Quand tu as pris les armes pour tuer tes propres frères, il y a beaucoup de gens qui sont morts parce que Guillaume Soro a pris les armes.
Et
vice versa avec.
Le problème de Guillaume Soro aussi, dans la plupart des cas, c'est ce qui arrive toujours. C'est dire, Guillaume Soro n'était pas devenu rebelle ex nihilo, comme le disent les Français ou encore les Latins.
Il a été
rebelle. Parce qu'il y a des gens qui lui ont donné des moyens, parce qu'il y a des gens qui l'ont sollicité, il y a des gens qui l'ont
approché
pour
dettes,
dire, viens, on te donne le moyen, allez, tu te mets debout.
Voilà.
Il se met debout. En se mettant debout, à un certain moment, Guillaume Soro s'est pris aussi beaucoup plus au sérieux.
Voilà.
En se prenant au sérieux, bon, il a eu à abuser aussi de son pouvoir pour faire des mécontentements. L'ex-officier... Ibrahim Koulibaly, surnommé IB, c'est quelqu'un qui était finalement en dissidence avec Guillaume Soro.
Alors voilà, donc je pense que c'est un peu le produit de ce qu'on a semé. Il a récolté un peu ce qu'il fait. Je trouve que parler de ça et dire que l'ONU va faire, comment ils ont dit
L'enquête,
je trouve que c'est
voilà, un peu ridicule. Voilà, je pense qu'on a encore deux minutes qui restent. Alors, les cas Hissène Habré,
les cas Hissène Habré, nous allons nous y pencher prochainement.
Non, mais je pense qu'en une minute...
Il y a tellement beaucoup de choses à dire. En une minute, c'est que les Africains devraient juger Charles Taylor chez eux.
Oui, et même Hissène Habré aussi.
Là où ils l'ont envoyé.
Nous sommes d'accord qu'ils soient jugés, mais ils doivent être jugés en Afrique.
Ils doivent être jugés en Afrique, puisqu'il n'y a aucun occidental que l'Afrique
qui peut être jugé un jour,
quel que soit. Les militaires français qui ont eu à tirer sur les pauvres Ivoiriens lors de la révolte de novembre et sur les jeunes patriotes, là, comme on les appelle, personne n'a été jugé. Mais si c'était un Africain, un leader africain, Bokassa a été renversé à cause de ça.
Écoutez, juste une chose, l'affaire du juge qui est mort en Djibouti, là, le français. Là.
Le juge Borrell.
Borrell, là, qui nous agace avec sa RFI,
en fait. Pour le président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh.
Il nous agace.
Le juge Borrell, c'est une affaire franco-française. C'est
voilà. Ça, donc il nous tamponne avec ça. Alors, les Africains, il est temps de faire confiance à la justice africaine et de juger les Africains chez eux.
Voilà, ici l'Afrique termine comme elle a commencé. André Moulumba, Jean-Marie Vianney, Mike Mouchaïla. Bonjour tout le monde.
Nous vous disons au revoir, amis auditeurs.
Si vous avez aimé,
rendez-vous avec nous pour les samedis.
Allez le dire aux autres. Si vous n'avez pas aimé, revenez le dire.
Et au revoir. Et dans l'immédiat, c'est Charles Lucania de Manus Music Talks qui va vous apporter le meilleur dans Africa Revisited.
Ghana, Mania want Africa, Ebony Pond, Dana, Aduna.
Boca.